Une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On en voit.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what ?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Et bonsoir à tous et à toutes. Vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Aujourd'hui sur l'apérophonie, on va parler d'un sport assez méconnu. En tout cas, sur cette version-là, c'est le hockey subaquatique. Le hockey subaquatique, comme son nom l'indique, c'est un jeu de hockey sous l'eau, au fond d'une piscine. Le principe, c'est que deux équipes s'affrontent en apnée, avec pour but d'envoyer le palet dans la cage adverse. Pour préparer cette émission, je me suis rendue à la piscine de Moiran, un mardi soir, avec mon petit zoom et mon maillot de bain. Donc ils m'ont fait essayer ce sport, j'ai trouvé ça très drôle. Jusqu'au moment où je me suis étouffée dans mon tuba et puis je me suis retrouvée au milieu d'un nœud de palme complètement emmêlé, j'arrivais pas à trouver la sortie, donc voilà, c'était un petit peu traumatisant aussi, mais ça a l'air quand même fun. Donc j'ai abandonné le match, j'avoue, j'ai abandonné mon équipe qui a perdu, mais j'ai profité de ma venue à la piscine de Moiran à l'entraînement de hockey subaquatique pour interviewer la seule femme qui était présente dans cet entraînement, qui s'appelle Gaïané.
Je m'appelle Gaïané Blachominassian et ça fait 15 ans que je fais du hockey subaquatique. Mon frère avait commencé avant moi, avec des copains, et moi je faisais de la synchro et de la natation. Et je suis venue à une initiation, et ça m'a plu, et du coup après j'ai pas arrêté.
Depuis, tu en joues toujours régulièrement
Oui, fréquemment, deux fois par semaine aux entraînements, à Moiran.
Et tu fais de la compétition aussi ?
Oui, on fait les championnats de France avec l'équipe fille, et j'ai commencé d'abord avec les jeunes.
Qu'est-ce que tu dirais qui est ton point faible ou ton point fort dans le jeu de hockey ? C'est quoi ta particularité de jeu ?
Moi, j'ai des bons shoots, des gros shoots. Bon, des fois, ça peut être aussi mon défaut parce que des fois, ça peut faire des tirs dangereux. Et du coup, bah, je vais un peu plus fréquemment en prison. Mais après, sinon, plus ma vision de jeu en point positif.
Quand tu dis aller en prison, ça veut dire quoi exactement là ?
Ça veut dire que pendant le match, en fait, on est en dehors du jeu. Pendant une, deux ou cinq minutes en fonction de la faute et du coup l'équipe se retrouve à 5 et non à 6, donc c'est pénalisant pour l'ensemble de l'équipe.
Les shoots, c'est uniquement avec la main, tu peux pas shooter avec le pied par exemple?
Non, c'est qu'avec la crosse, ouais, qu'avec la main. De toute façon, le palet, on a le droit de le toucher qu'avec la crosse, donc si on touche avec la palme, ça fait faute, mais c'est une autre faute encore.
Et si on se prend le palet dans une partie du corps, c'est une faute?
Ouais, c'est là où c'est un tir dangereux. C'est soit la personne qui shoote qui fait tir dangereux en fonction de la zone, soit si c'est la personne qui arrête le palet avec un membre de son corps, là c'est un arrêt irrégulier et c'est lui qui fait faute.
Est-ce que tu as un souvenir vraiment où tu t'es dit tiens, c'est ce sport que je vais continuer à faire, ou est-ce que tu as un souvenir vraiment intense du hockey subaquatique?
Du coup, au tout début, ce qui me... quand j'ai commencé, ouais, c'est bah, vraiment à l'initiation où je me suis dit ah, c'est génial. Ce qui m'a fait aimer, c'est de se dire que c'était un sport d'équipe où on communiquait sans parler en fait. C'est par des gestes, par un regard, par la position, la tactique. Et j'ai trouvé ça génial de pouvoir faire ça. En plus, c'est un sport vraiment en 3D où c'est vraiment le seul sport qui a ça, je trouve.
Parce que l'eau, ça permet de se déplacer aussi verticalement, quoi.
Ouais, verticalement, ouais, sur les côtés de partout, enfin, de se retourner, l'eau, elle, ouais, ça permet ça, c'est vrai.
Il faut quand même aimer la bagarre un peu pour faire du hockey subaquatique.
Alors, on n'est pas obligé de jouer en bagarre, mais c'est sûr qu'il faut pas se laisser faire.
Et en termes d'équipe féminine, il y en a autour de Grenoble?
Ouais, dans la région, il y a trois équipes féminines. Et nous, là, à Moiran, on vient de jouer la deuxième division et on a fini deuxième, du coup, ce qui nous permet de remonter en manche 1, enfin en division 1, donc en manche 3.
Et toi, c'est quoi la performance dont tu as été la plus fière, le match
Le match, moi-même, personnellement, c'est quand on allait au championnat du monde avec l'équipe de France et que c'est un match qu'on joue contre la Nouvelle-Zélande. Et j'en ai un très bon souvenir parce que la Nouvelle-Zélande, c'est une super équipe et on a fait une très belle performance.
Il y a but ou il n'y a pas but ? Prenez-le, prenez-le. On n'a pas tout perdu, on n'a pas beaucoup gagné quand même.
C'est bien résumé.
Non, mais je pense qu'on s'est fracassé quand même. Pendant tout l'entraînement, c'était pas fameux.
On est de retour sur au studio de Radio Campus, sorti de la piscine. Et on va parler de hockey subaquatique. Et je suis donc avec des joueurs de l'équipe de Moiran, Jules, Lucas et Maxime. C'est ça, vous êtes tous joueurs à Moiran ?
Exactement.
Exactement.
Il y a des pièces rapportées un petit peu avec les études, le travail faisant, on se rapproche un peu des grosses villes. Et donc du coup, certains ont commencé, j'ai commencé dans une autre petite ville d'Auvergne et en venant sur Grenoble, je me suis mis dans le club de Moiran.
Mais tu joues dans l'équipe de Moiran ?
Pas pour l'équipe de Moiran, je fais les entraînements, mais je joue pour mon club en compétition.
Est-ce que vous pouvez vous présenter individuellement et votre carrière de hockeyeur ? Depuis quand ? À quel niveau vous jouez ? À quelle fréquence ?
Ok. Bah, je peux commencer. Du coup, moi, c'est Maxime. Moi, je fais du hockey du coup, à Moiran depuis 13 ans maintenant. Donc, j'ai commencé en 6e, il me semble. Voilà, j'ai fait toutes les catégories avec Moiran. Donc, on a eu la chance d'avoir une bonne génération dans ma génération d'âge. Et du coup, on a pu faire jouer les premiers rôles dans les championnats de France jeunes. Et après, faire les sélections équipe de France. Du coup, j'ai pu partir au championnat du monde U19 à Hobart, où on fait champion du monde. J'ai aussi fait les championnats du monde U23 à Sheffield, où là, on finit 5e, malheureusement.
Et là, tu fais encore partie de l'équipe de France ?
Et là, du coup, ouais, je joue avec l'équipe 1 de Moiran, donc on joue en D1, donc le meilleur niveau français. Et on a le championnat de France qui a lieu ce week-end. Prochain.
Grosse pression.
Ouais. Grosse échéance.
Et la sélection pour l'équipe de France, c'est suite au championnat de France ?
En fait, quand on est jeune, c'est les clubs qui décident d'envoyer un certain nombre de jeunes dont ils pensent qu'ils ont le niveau. Et ensuite, sur toute l'année avant les championnats du monde, en général, il y a des stages quasiment tous les mois, on va dire. Et donc, il y a des sélections jusqu'à sortir 12 joueurs qui partent au championnat du monde.
Ok, et vous, Jules et Lucas ?
Alors moi, un peu comme Maxime, j'ai commencé le hockey en 6e ou 5e. Donc maintenant, j'ai 28 ans, donc ça commence à faire un moment. Toujours avec Moiran, donc pareil, j'avais une assez grosse génération, donc on a pas mal gagné étant jeune. Et puis après, j'ai fait aussi des stages France et je suis parti au championnat du monde à Hobart en 2017, où j'ai fait vice-champion du monde. Et sinon, actuellement, je joue en division 2 parce que je manque un peu de niveau en ce moment. Mais sinon, j'ai joué aussi avec l'équipe 1 il y a quelques années, donc dans la meilleure division dans laquelle joue Maxime.
Parce que l'équipe de Moiran, elle a deux équipes ? Enfin, le club de Moiran a deux équipes ?
Oui, il y a deux équipes, il y en avait même trois à un moment. En fait, ça dépend du nombre de licenciés et des licenciés qui veulent faire des compétitions. Et à ce moment-là, il y a y a une espèce de sélection naturelle qui fait des équipes. Et après, il faut aller faire des championnats régionaux pour ensuite se qualifier pour un championnat de France. Et on peut être... Il y a quatre divisions aujourd'hui, c'est ça ?
C'est ça, ouais.
Et du coup, nous, on en a une en division 1, une en division 2.
Et aussi à noter qu'on a aussi une équipe fille qui joue du coup aussi en D1, elle aussi, cette année.
Et vous, du coup, vous avez tous les deux joué depuis la 6e ensemble. Vous êtes de la même génération ou pas tout à fait ?
Non, on n'est pas de la même génération.
Non, Lika, il est un peu plus vieux. Il est de la génération d'avant, on va dire.
Mais maintenant, dans plusieurs compétitions, on a joué ensemble. Ouais. On se connaît quand même pas mal. Et on est parti à Hobart ensemble en 2017, mais dans deux équipes différentes. Il est parti en moins de 19 ans et moi en moins de 23 ans.
Et comment ça se fait que vous avez commencé ?
Alors, moi, du coup, c'était par le biais d'amis de mes parents, donc dont le mari avait créé le club, en fait, de Morhen. Et du coup, quand on allait chez eux, à chaque fois, ils me disaient, ils me tannaient pour aller essayer. Et un jour, j'y suis allé et après, j'ai jamais arrêté.
Et moi, je suis arrivé en 2003 à Morhen. Et mon père en a fait, ma sœur en a fait, en fait toujours. Et en fait, mon voisin faisait du hockey, c'était les Marans, qui sont aujourd'hui dans l'équipe 1. Et en fait, il m'a proposé, le père des Marans, qui était à ce moment-là président du club, m'a proposé de venir essayer le hockey pour compléter une équipe où il n'y avait pas assez de joueurs. Et du coup, j'ai essayé et ça m'a plu, et depuis, j'ai pu arrêter.
Et toi, Jules, alors, depuis quand, comment t'as commencé ?
Bon, après, ça va être dur de parler après un palmarès aussi fourni et autant de sélections en équipe de France que ça, parce que du coup, en venant d'un endroit un peu plus paumé, j'ai pas eu la même jeunesse victorieuse vis-à-vis du hockey. On a encore joué beaucoup contre Morhen, mais on perdait beaucoup contre eux également. Donc là, ouais, je continue. J'ai commencé une dizaine d'années aussi. Je me souviens d'avoir fait quelques stages France avec Maxime étant jeune. Et là, en fait, j'ai jamais plus ou moins arrêté. J'ai un peu mis le haut là pendant les études. Donc voilà, là, c'est un plaisir de rejouer sur Grenoble et Morhen.
Tu t'entraînes combien de fois par semaine ?
Donc du coup, à Morhen, il y a deux entraînements. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a bien deux clubs. Dans le bassin grenoblois, il y a un club qui s'appelle Hockey Anos sur Grenoble et un club qui est sur Morhen. Les deux clubs ont les mêmes horaires d'entraînement. C'est un peu, on va dire, maintenant un club qui est un peu mixé. Donc, ces deux clubs partagent la section jeunes. Il y a deux entraînements pour les seniors, un entraînement pour les juniors. L'entraînement pour les seniors, c'est le mardi et le vendredi soir. Et pour les juniors, c'est le samedi. Et donc du coup voilà, on se rejoint le mardi, le vendredi soir, on part de Morhen en voiture de Grenoble en voiture pour aller s'entraîner ensemble et jouer Tâter du Palais.
Et on se demande toujours, j'imagine que tout le monde se demande à quoi ça peut ressembler un match de hockey subaquatique. Pour se mettre un peu dans le bain, on va écouter un extrait d'un commentaire de match de Morhen contre Fontenay en juillet 2022.
Actuellement, je vois pas comment Morhen peut gagner. Ça peut tourner, reste encore 8 minutes, 8 minutes c'est long. Mais pour le moment, ils ont toujours pas réussi à mettre en place leur jeu.
Ouais, va falloir peut-être compter sur une erreur défensive de Fontenay.
Ouais, ils ont réussi à casser tout ça, ils ont réussi à passer.
Alors peut-être que ça va être le moment là pour Morhen de réduire l'écart.
C'est Marocas, bien joué. Et c'est là où il va falloir aller chercher de la présence pour l'équipe de Morhen. Voilà, avec encore une fois... les joueurs de Fontenay qui sont bien fixés sur le sol là et qui permettent l'ouverture des joueurs de Morhen. Oh là là,
le sauvetage de Valentin Carré là, alors que le joueur de Morhen était tout proche de reprendre ce palais. Et la contre-attaque est menée directement, mais ça a été bien intercepté par...
Oh, bien joué. Oh là, Clément Arrocas qui a essayé quelque chose, mais attention, attention, parce que là Fontenay, ça y est, ils sont en mode avoinage, là ils vont tout droit. Pas d'histoire et on est en train de se débarrasser du palais avec ici. Il y a vraiment urgence là pour Morhen. Vraiment sortir de tout ça.
Ah, attention, Stéphane Roy qui a réussi à qui s'est avancé là dans le terrain pour mettre la pression là sur cette défense de Morhen. Et ça a payé puisque ça va faire le troisième.
C'est dedans.
Le troisième.
Et c'est dedans pour Fontenay.
Ouais, le troisième but pour Fontenay qui
ils
a
ont,
été...
Ils ont vraiment du mal là, les joueurs...
Les joueurs de Morhen qui n'arrivent pas à résister à l'impact physique mis par les joueurs de Fontenay.
Est-ce que vous vous souvenez de ce match contre Fontenay ?
Du coup, oui. C'est pas forcément le match le plus glorieux vu que visiblement on est en train de prendre la sauce. Mais oui, il me semble que c'était un tournoi du Puy. Justement,
ouais, justement, c'était au Puy-en-Velay.
Voilà.
Il y a un truc qui est assez marrant avec le hockey, c'est que souvent, on ne comprend pas trop, mais c'est des toutes petites villes qui sont au top niveau. Moirans, c'est, en étant grenoblois, on se rend compte quand même que ce n'est pas la plus grande ville du monde. Il y a Fontenay contre qui Moirans perd ce match-là, qui ont gagné, voilà, Dinan. Fontenay-Trécigny, c'est une ville de la région parisienne, mais en banlieue, qui je ne veux pas dire qui rayonne pas non plus, et c'est justement la force de ce sport, je trouve, c'est d'avoir des tout petits lieux où des générations grandissent ensemble. C'est le cas de Moirans, qui arrive à créer un niveau exceptionnel par rapport en fait à des villes beaucoup plus grosses où les gens passent, partent, etc.
Il y a moins de cohésion.
Voilà, et c'est ça qui est assez marrant, vu que dans le sport, on ne peut pas parler sous l'eau, vu qu'on est dans l'eau et qu'on a un tuba dans la bouche, de grandir ensemble et de faire tout ça depuis jeune dans des petites structures. C'est ce qui crée des synergies très très fortes. Et c'est là où, du coup, moi, sont plutôt performants.
Bah en fait, oui, les générations de jeunes se sont créées comme ça. C'est une personne qui aime bien, elle en parle à ses copains d'école. Et puis il vient essayer, il adore aussi ou elle adore aussi. Et puis petit à petit, ça crée une cohésion de groupe, une bonne équipe qui prend du niveau d'année en année. Et c'est ce qui s'est passé avec Moirans, comme avec, il parlait de Dinan, avec ce bon vieux Hyacinthe Flandrin. Des adversaires qu'on rencontre depuis le début, depuis vraiment beaucoup d'années, et ouais. Qui pourtant habitent très très loin.
J'imagine que vous devez au bout d'un moment connaître quand même beaucoup de monde de votre âge en tout cas.
Ah oui, bon, on se connaît tous autour du bassin. Ça fait des années qu'on se rencontre, qu'on joue contre. Et on va dire que ça reste un sport confidentiel, un sport de niche. Donc il n'y a pas non plus du turnover, beaucoup de turnover. Donc oui, on connaît tout le monde.
Est-ce qu'il y a un de vous qui se sentirait d'expliquer les bases du jeu ?
Je me sens bien. Alors déjà, le hockey subaquatique, c'est un sport qui se joue à 6 contre 6. On a tous un accoutrement plutôt particulier. On a des palmes, un masque, un tuba. Donc le tuba, ça sert à respirer et quand même à voir le jeu. Le jeu se déroule au fond de la piscine. En fait, c'est un palet qui est lesté, qui pèse 1,5 kg lorsqu'il est pris hors de l'eau. Donc 1,5 kg peut paraître beaucoup, mais vu que les choses flottent et qu'on est dans l'eau, c'est bien ralenti. Et pour pousser le palet, on a une crosse, donc elle peut être en bois, en plastique, elle fait entre 20 et 30 cm, cette crosse, qu'on tient avec un gant de protection en silicone. Et on pousse le palet qui est au fond. Et à 6 contre 6, en fait, vu que le jeu se déroule au fond de la piscine, on doit pousser le palet dans une rigole qui est elle aussi immergée. On ne peut pas se parler entre nous pour dire « fais-moi la passe », etc. Et quand on parlait de synergie, bah c'est ça. On a tous des positions qui sont très claires. Donc de l'extérieur, on a l'impression que c'est le fouillis. Pas du tout. Il y a des actions de jeu, des choses vraiment très claires à faire. Et on fait la passe, machin, il doit être là, etc. C'est beaucoup de jeux à l'aveugle. Ça ressemble un petit peu au rugby dans le sens où il n'y a pas de gardien. Donc le jeu se déroule là où le palet est. Donc comme au rugby, le ballon, s'il est sur la ligne des 22 mètres, le jeu est sur la ligne des 22 mètres. Voilà.
Et est-ce que vous avez quand même des signes, par exemple, pour communiquer sous l'eau ?
Ça dépend après, je pense, des tactiques de chaque équipe. Peut-être que certaines équipes, elles mettent en place des signes pour annoncer certains coups francs, par exemple, notamment. Il y a surtout les signes d'arbitrage, du coup, parce que du coup, il y a deux arbitres aquatiques et un arbitre surface. Donc dès que l'arbitre aquatique fait un geste de la main assez visible, l'arbitre de surface sonne avec un bip pour que tout le monde s'arrête de jouer et pour siffler la faute du coup. Et du coup là, pour désigner les fautes, c'est des signes, donc des signes particuliers pour désigner chaque faute. Mais entre les équipes, je dirais qu'en fait, les seuls moments où on peut communiquer, c'est quand il y a des temps morts, ou par exemple entre des phases de jeu comme des coups francs ou des choses comme ça.
On sort la tête de l'eau.
Ou sinon, entre demi-temps, parce que du coup, il y a demi-temps qui sont entre 10 et 15 minutes suivant le niveau du match et l'âge des participants. Et du coup, il y a des temps morts où là aussi, on peut discuter. S'il y a un coach, c'est à ce moment-là qu'il peut venir donner des conseils ou des directives.
Parce que niveau apnée, ça se passe comment? J'imagine que du coup, il devait y avoir un relais entre les personnes qui poussent le palais.
Oui, un relais. Après, ça dépend aussi du coup du poste de chacun, parce qu'en fonction de où situe le palais, où situe l'action de jeu, il y a des postes qui sont moins concernés que d'autres. Et en fait, le hockey, l'idée, c'est du coup d'enchaîner, d'arriver à enchaîner le plus possible des apnées qui sont pas forcément longues, qui sont assez courtes, donc environ entre 10 et 20 secondes, je dirais, mais à haute intensité, en fait. Donc l'objectif, c'est de pouvoir les enchaîner le plus possible.
Donc il y a toujours plusieurs personnes qui sont en train de respirer et d'autres qui sont au fond.
Et c'est toute une histoire de synchronisation. Si toute l'équipe remonte en même temps parce qu'on s'est mal compris, on a mal regardé, etc., et ben là, bah, vu que le jeu peut passer en dessous de nous, c'est un jeu en trois dimensions, on a tout perdu. Donc, cette histoire de sans communiquer, arriver à communiquer, c'est là où toute la beauté du hockey.
Et c'est pour ça que du coup, il y a des postes, il y a trois avant, trois arrière, avec une personne, on l'appelle l'avant-centre, après il y a deux ailes, l'ailier droit, l'ailier gauche, un arrière-centre, et puis un pivot droit, donc arrière-droit et pivot gauche, arrière-gauche. Il n'y a pas de gardien, comme certains le demandent souvent.
Ouais.
Et du coup, on connaît notre poste, dès qu'on est en apnée, on sait où aller, on va à droite si on est à droite, on va plutôt devant si on est devant.
Et du coup, est-ce qu'on est un peu en doublon avec la personne qui est soit à gauche, soit à droite, et est-ce qu'on se relie naturellement plus avec cette personne-là pour respirer ?
Il y a des systèmes de jeu particuliers où effectivement, ça va être au rôle du centre. Le rôle du centre est très important au hockey, de laisser la personne, par exemple... Je suis centre, la personne qui est à droite s'est engagée, il fait une très longue apnée. Il y a un moment où il va remonter. Si moi, je ne suis pas là pour prendre son relais pendant que lui est à la surface en train de se reposer, ça va laisser un trou. Et donc, du coup, ce rôle central est très important. Okay.
Ouais, faut avoir l'attention sur depuis combien de temps ton partenaire est...
Donc, il faut d'abord regarder le jeu, de savoir où est-ce que le palais est, qu'est-ce que va faire l'adversaire avec. Et en plus, il faut regarder ses partenaires, qu'est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils sont, comment ils sont placés, si on est dans un temps fort, un temps faible, etc. Et donc, il faut avoir des yeux partout, en étant un peu essoufflé, parfois en retenant sa respiration. Donc, c'est quelque chose d'assez complet.
Et c'est aussi pour ça, du coup, qu'on joue avec un tuba. Du coup, c'est que ça nous permet de recracher l'eau, du coup, et tout en gardant avec le masque une vision sur le jeu. Donc, c'est pas comme ça, on évite de remonter la tête hors de l'eau, on perd complètement de vue le jeu. Et ça nous permet du coup de rester focus sur ce qui est en train de se passer sous l'eau, quoi.
Ouais, on garde toujours la tête sous l'eau.
Ouais, toujours.
Et les piscines, elles sont profondes comment ?
Alors, ça dépend des piscines du coup et des championnats. Donc, en général, ça va de 2 mètres à 3 mètres de profondeur. En sachant que une compétition à 2 mètres et une compétition à 3 mètres, ça n'a rien à voir. C'est totalement différent, ça se joue différemment. Et en termes de taille de terrain, je sais pas, ça dépend aussi des piscines.
Ouais, faut compter, en gros, c'est 12,50 m de large, entre 10 et 12,50 m de large par 25 m de longueur. Donc c'est la moitié, enfin un quart d'un bassin olympique, quoi.
Et tu disais en 10-20 secondes d'apnée que vous essayez de faire.
Non, ça c'était pour donner une espèce de moyenne des apnées qu'on fait le plus souvent. Parce que, comme je disais, c'est des apnées qui sont à haute intensité. Et du coup, en fait, ça peut se matérialiser par... Tu fais une apnée, je sais pas, environ 15 secondes. Et après, tu remontes. Mais par exemple, tu prendras juste une inspiration et tu retourneras au fond parce que c'est à toi d'y aller. C'est ton poste qui le demande. Et du coup, l'idée, c'est d'enchaîner ça. Tout en sachant que, du coup, on est 6 joueurs sur le terrain. Mais on a 4 remplaçants qui sont illimités, donc généralement on marche il y a des doublons, ce qui fait que du coup tu peux faire une grosse phase de jeu, sortir et le remplaçant du coup prend ta place pour toujours garder un maximum d'intensité au fond de l'eau.
Un peu comme au hockey sur glace, là. On sort directement et à n'importe quel moment du jeu et quelqu'un est là pour prendre le relais.
Et c'est quoi le max d'apnée que vous pouvez faire ?
Ça dépend de la...
Bah pour qu'elle aille, c'est 10 minutes.
Non, en fait, on fait pas trop d'apnée longue et statique, du coup, vu que c'est pas trop ce que demande le sport. Mais je sais qu'il y a certains, certains joueurs qui tiennent des minutes, quoi.
Sans
jouer, hein. Ouais. Juste, je te parle statique, sans bouger.
Ah, et dans le jeu, s'il y a vraiment urgence, qu'il ne faut pas sortir, vous restez combien de temps?
Bah après, ça reste vraiment hyper théorique, hein, je sais pas, mais comme en plus on peut pas trop le calculer, il n'y a pas quelqu'un qui nous dit à côté, bon bah là t'es resté 30 secondes, c'était pas assez.
Quelqu'un de très très bon, en fait, au hockey, c'est justement le moment où n'importe qui d'autre serait remonté, parce que vraiment le besoin de respirer, il se fait vraiment sentir. Et lui, il va aller chercher le petit temps d'apnée, mais ça peut être 5-6 mètres en sprint, qui va permettre de contrer un tir, contrer une action, et en fait partir au but et traverser le terrain. Donc c'est pas très factuel en fait de dire ça, mais c'est vraiment ça la différence de physique entre les joueurs, ça se joue un peu là-dessus.
Oui, parce qu'en plus en fonction de l'évolution du coup du jeu et de l'action, en fait tu peux commencer à ton action où tu t'immerges en apnée, où t'es pas forcément impliqué, mais tu restes quand même en apnée statique, parce que tu sais que tu peux être amené à être engagé. Et la deuxième partie de ton action, où tu rentres dans le jeu complètement à 100%, donc il y a cette adaptation à faire à chaque action quasiment.
Au jeu, quoi.
Ouais, exactement, tu t'adaptes au jeu, en fait.
Et vous faites jamais la stratégie de rester respirer longtemps à la surface, en attendant qu'il se passe un truc?
Bah, par exemple, si ça joue tout le temps du côté gauche, forcément, les joueurs qui jouent à droite vont un peu plus se reposer, dans le but que quand le jeu va arriver à droite, ils seront en pleine forme pour tout donner, quoi. Donc c'est à ce moment-là que tu te reposes, c'est quand ton poste n'est pas sollicité.
Et est-ce que vous pouvez nous parler de quelques stratégies d'équipe qui peuvent être mises en place?
Alors, ce qui est plutôt rigolo, okay, c'est que suivant les pays, tout à l'heure on a parlé de trois avant, trois arrière. Et en fait, suivant les pays, il y a une réelle mode dans le positionnement au hockey subaquatique. Donc, les pays très forts au hockey subaquatique, c'est un peu comme au rugby. C'est Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud, Angleterre, France. Il y a quelques pays qui se sont rajoutés à ça, donc la Turquie,
la Colombie.
C'est à peu près tout, quoi. C'est les sept nations majeures, et ces sept nations, elles ont toutes des façons, elles ont développé en interne leur façon de jouer au hockey, donc que ce soit du matériel, donc ils ont des crosses différentes que des Français. Bon, ça tend à se généraliser, hein, mais
c'est autorisé d'avoir différentes.
Il y a un gabarit pour les crosses où les crosses doivent rentrer, mais même du coup les nations aussi ont différentes façons de jouer dans le positionnement, donc ça va être de dire nous on joue pas en 3-3, on joue en 1-3-2 ou on joue en 3-2-1, ou enfin voilà, toutes les combinaisons possibles avec 6 existent.
Et puis après, même dans les équipes nationales, en France, il va y avoir déjà plusieurs types de jeux. Il y en a qui vont énormément taper dans le mur, ils vont jouer très serré, et puis il y en a d'autres qui vont plutôt élargir leur équipe sur tout le bassin et se faire des très grandes passes. Donc ça va vraiment dépendre de chaque équipe. Et puis avant chaque match, en fait, en sachant un peu le jeu de l'équipe adverse, on peut adapter notre propre jeu.
Et à la mi-temps aussi, on peut rediscuter d'une nouvelle stratégie.
Exactement.
Mais la dernière fois, tu me racontais, Jules, une stratégie qui n'avait pas marché à la fin.
ça
arrive régulièrement.
Ça arrive très régulièrement même. Non, ouais, alors il y a une stratégie qui est parfois appliquée, c'est quand on court après le score, on est mené 2-1, il reste une minute. Bon, ce n'était pas du tout notre cas, nous on gagnait 2-1. On gagnait 2-1, il restait une minute, et donc là, la stratégie, on parlait, il y a le rôle essentiel du mur au hockey, où en fait, c'est une zone morte un petit peu, où on bloque le palais dans le mur, et en fait, c'est beaucoup plus dur pour l'adversaire de sortir le palais du mur pour essayer de les marquer dans nos cages. Et en fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va faire un tube. Alors un tube, c'est donc lorsqu'on démarre l'engagement au hockey, le palais est au centre du terrain et les deux équipes sont de part et d'autre du terrain. L'arbitre utilise son buzzer pour signifier aux équipes qu'elles peuvent se ruer sur le palais. Et le tube, c'est on laisse le palais au centre, on se fait des toutes petites passes et on va essayer d'enfoncer l'adversaire. par son milieu.
On fait un peu une haie d'honneur.
Exactement, une haie d'honneur, mais bien qui tape, quoi, parce que du coup, on rentre vraiment frontalement dans l'adversaire au lieu de faire juste une passe et aller dans le mur. Et donc, on menait 2-1 et finalement, on a quand même réussi à perdre 3-2. Parce qu'en fait, eux avaient la même stratégie que nous. Ils essayaient de marquer. Ils étaient peut-être un petit peu plus costauds.
Et en fait, si cette stratégie fonctionne, ça permet d'aller vraiment marquer très vite dans la cage adverse. Par contre, si ça ne marche pas, ben...
C'est un all-in.
C'est un peu risqué.
Ouais, exactement. Et
le truc, c'est que du coup, ils ont eu la bonne idée de le faire une première fois. Ça n'a pas marché, de le refaire une deuxième fois, ce qui n'a toujours pas marché.
Ce qui explique les deux buts de différence.
Exactement.
Et tu dis que c'est un peu du rentre-dedans. Est-ce que ça peut être violent, le hockey?
Il y a une part en fait du hockey où effectivement c'est un sport qui va demander de l'engagement, de la fermeté dans le mur. Mais en fait c'est un peu contre-intuitif, mais on se tape dessus dans l'eau. C'est très contrôlé. En fait, il y a très peu de joueurs qui sortent avec des blessures. C'est pas comme au rugby où on va impacter les articulations, etc. Là, on va se rentrer dedans, mais avec l'effet de l'eau, etc., on ne se fait pas forcément très mal. Et il y a un autre argument, ça, c'est aussi la capacité à certains profils plus légers, qui vont nager beaucoup plus vite, qui vont s'en sortir, donc bénéficier de ça, éviter forcément l'affrontement et juste nager, éviter ça.
Un peu comme au rugby, quoi.
Oui. Ça reste un sport de contact. Donc on prend des coups qui ne sont pas forcément des fautes. Oui, un peu comme au rugby, tu prends des coups, c'est un sport de contact où tu peux aller à l'affrontement frontal, mais bon, tu peux aussi l'éviter par des gestes techniques et des passes.
Mais il n'y a aussi pas le droit de taper directement l'autre avec sa crosse.
Complètement.
Non, ça c'est interdit.
Oui, mais par contre, on peut très bien mettre un coup de talon sans faire exprès dans la tête de l'adversaire, et là ce sera pas sifflé, et pourtant ça fait quand même mal.
Faut quand même dire pour les gens qui nous écoutent que on est quand même sur un sport où il y a très peu de blessés. C'est pas ultra traumatisant non plus.
Non.
Vous êtes déjà blessé?
Moi, enfin, une grosse blessure type, enfin, je me suis jamais blessé.
Par exemple, tu te feras sûrement pas les croisés au hockey comme tu peux te le faire sur les sports où t'as des appuis comme au foot ou au rugby. De grosses blessures pendant un match, il y a eu des tympans qui pètent, ouais,
avec la pression,
ouais, ou après, avec un coup de palme.
Après il peut y avoir des saignements de nez, des coupures, mais sinon non, grosses blessures, alors peut-être une fois par an une perte de connaissance.
On va quand même,
mais c'est très
pour
limité.
Les gens qui nous écoutent, c'est pas mal
non mais c'est là ce qu'on a, c'est des grosses blessures, c'est super super rare.
Ouais, c'est pas souvent lié au manque d'air.
Non, jamais. Enfin, c'est extrêmement, extrêmement rare. C'est pas comme... j'avais déjà pu participer à une compète d'apnée où la syncope, donc c'est vraiment le symptôme d'une perte de connaissance liée à force de retenir sa respiration. Là, ça arrivera extrêmement rarement. Enfin, moi, personnellement, ça fait 12 ans que je joue, j'ai jamais vu ça.
Ouais, pareil, jamais.
Okay. Moi non plus. Mais c'est que le corps, on remonte naturellement. Même en fait, on peut quand même pousser notre apnée. On n'arrive jamais à l'extrême ou très rarement à l'extrême de perdre connaissance.
Et puis là, quand on parle d'engagement physique, on a joué tous les trois en division 1. Donc dans les divisions inférieures, la dimension physique et contact, elle peut être moins présente avec le terme d'engagement, etc. Ce sera plus un jeu qui va aller moins vite, qui va aller moins violemment, et voilà. Un petit peu comme si on comparait la Ligue 1 avec
des divisions. Un club de foot amateur.
Exactement.
Et est-ce que vous connaissez un peu l'histoire? Pourquoi ça a été inventé, le hockey subaquatique?
Alors moi, je sais que ça a été... Alors, je ne sais plus en quelle année ça a été inventé, mais je sais que ça jouait dans des fosses. Vers les 6-7 mètres de profondeur au départ, et il y avait pas mal d'accidents, et du coup ils ont changé un peu le type de jeu. C'est ce dont je me rappelle.
Ouais, alors, du coup on avait un peu préparé cette question aussi avec Maxime hier à l'entraînement. Du coup on a vu que l'histoire en fait du hockey, elle a démarré dans les années 50 en Angleterre. c'était des pêcheurs. En fait, l'hiver venant, ils ne pouvaient plus pêcher parce qu'il faisait trop froid ou je ne sais plus quoi. Et ils voulaient quand même rester fit pendant l'hiver pour la saison d'été qui arrivait. Et ils avaient une piscine à disposition. Ils en avaient marre de faire des longueurs. Et ils avaient des poids en plomb de plongée. Et ils les faisaient tomber en bas de la piscine. Et ils se sont amusés à pousser le palais, etc. Parce que c'est devenu un palais, en fait, rapidement. Et dans un premier temps, ils jouaient avec des bouteilles d'apnéistes. J'imagine qu'ils devaient avoir ça en stock.
Pas d'apnéistes, du coup
Des bouteilles de plongeurs. Et puis rapidement, en fait, ils ont laissé tomber tout l'attirail de plongeurs pour aller plus vite dans l'eau, parce qu'avec des palmes, on peut aller très très vite dans l'eau. Et en fait, le fait de retenir cette respiration est aussi intéressant, en fait. C'est tout l'intérêt du jeu.
C'est complètement faux ce que j'ai vu, alors. Et je l'ai raconté à beaucoup de gens.
Oublié.
Et c'était peut-être dans des fosses. Hein.
Peut-être, bon.
On va dire que oui.
Donc ça a toujours été dans des piscines, jamais dans la mer
Bah, du coup, ouais, vu qu'il y a l'aspect que le palais doit glisser à la surface d'une surface relativement plane, il me semble qu'il y a certaines piscines aménagées dans la mer où ça a déjà été joué, le hockey, mais on ne peut pas y jouer sur le sable, clairement.
Et le palais, il n'avancerait pas.
Non, malheureusement.
Et puis, on le perdrait.
Ouais. Bon, en tout cas, c'est intéressant. Ça a commencé juste comme ça, des pêcheurs. Et puis après, t'as dit dans les années 20
50, hein,
ouais. 50. Ouais. Donc, rapidement, quand même, ça s'est développé.
On peut dire que c'est un sport jeune, non ?
Je ne sais pas. Ouais, du coup, maintenant, il y a... On n'en a pas trop parlé, mais il y a du coup des équipes de France, des équipes nationales, ça s'est exporté dans d'autres pays. Il y a une fédération internationale des sports sous-marins qui chapeaute un peu le truc. Et il y a des championnats du monde qui sont organisés donc,
tous les 4 ans.
Bah, vous en parlez mieux ouais. que moi.
Avant, c'était tous les 2 ans et maintenant, ils sont passés à tous les 4 ans. Donc là, c'était l'été dernier, qu'il y avait le championnat du monde élite, du coup, donc le meilleur niveau mondial. Et du coup, les Français font vice-champion du monde, pardon, comme les Françaises d'ailleurs. Et l'été prochain, c'est les équipes de France jeunes qui vont partir en championnat du monde en Malaisie. Et du coup, équipe de France U23 et U19. Et du coup, nous, le club de Morhan, on a de la chance. On a Lison, Clémentine qui joue pour les équipes U19 et U23 féminines. Et on a Maxime qui est coach des équipes de France U19 masculines.
Et vous pensez qu'ils ont leur chance dans le championnat du monde ?
Oui, je pense. Après, c'est très compliqué d'émettre un avis là-dessus parce que. Quand les championnats jeunes, surtout les U19, on a peu de références, vu que c'est les autres nations, on ne les a jamais trop rencontrées avant. Donc c'est difficile d'émettre un pronostic, mais généralement les équipes de France arrivent toujours à bien s'en sortir en championnat du monde.
On espère en tout cas. We'll be right back.
Et on est de retour à l'apérophonie, toujours sur le hockey subaquatique. Maintenant qu'on a bien défini les règles et tout, est-ce que vous pourriez nous partager des souvenirs de jeux qui vous ont marqué, qui ont été assez intenses ?
Du coup, là, ce qui vient tout de suite, c'est que je n'ai pas forcément une action en particulier qui vient tout de suite, mais je dirais les moments intenses, c'est par exemple les compétitions du coup, avec les équipes de France. Donc où on est ensemble pendant 15 jours dans un pays étranger, où on rencontre le meilleur niveau de notre génération et des autres nations aussi. Et du coup, c'est toujours des expériences super sympas à vivre, super enrichissantes, encore plus quand tu arrives à aller chercher un bon résultat derrière. C'est un peu la même chose avec les compétitions quand on était en jeune et tout ça. Et les compétitions qu'on fait encore actuellement, retrouver tous les copains, jouer ensemble, bien rigoler pendant un week-end, tout en essayant d'aller chercher la meilleure des places possibles. Et aussi à Moiran, je dirais, le moment marquant qui a lieu tous les mardis soirs, c'est le fameux match en 3. On a une petite tradition que tu as pu voir du coup quand tu es venu, où à la fin de l'entraînement, on fait un match en 3, le premier qui arrive en 3, et là... le niveau de jeu et l'intensité augmentent
drastiquement.
Et c'est toujours très sympa. C'est toujours des gens qui sortent très frustrés, surtout Lucas. Et, et des gens super contents.
Ça donc, balance.
C'est assez intense comme moment aussi.
Lucas, tu veux rebondir là-dessus ?
Je ne répondrai pas à ça, mais je crois que Kala est sur une série de défaites, là. Enfin, Maxime est sur une série de défaites au match en 3 qui...
Lucas vient de perdre hier, et il ose dire ça.
Alors, mon souvenir à moi. non, mais un peu pareil que Maxime, un souvenir inoubliable, c'est toujours avec l'équipe de France, en 2017, quand j'étais à Hobart, en Tasmanie. Là, en fait, on avait joué contre la Nouvelle-Zélande en match de poule et on avait perdu 5-0. Donc on s'était fait vraiment laminer, quoi. Et donc on arrive, on continue à jouer, ça se passe de mieux en mieux, on monte en puissance et on arrive en demi-finale contre eux. Donc là, à ce moment-là, c'était un peu dur de se dire, voilà, on a pris 5-0, comment on va faire pour gagner ? Et puis en discutant entre nous, en élaborant une stratégie, et ben on a finalement réussi à gagner 5-0, je crois.
Incroyable.
Ou peut-être qu'on avait perdu 4-0, puis on a gagné 5-0. Voilà, en parlant de stratégie, donc je vous laisse imaginer plutôt le bonheur à la fin du match et l'arrivée en finale, qu'on a perdu malheureusement. Mais...
Et vous y êtes arrivé.
Voilà, c'est ça.
Ah ouais, comme quoi, faut pas partir vaincu.
C'est ça, exactement.
Et toi, Jules, tu veux nous parler d'un moment spécial ?
Je sais pas si c'est un moment spécial, non. Un truc qui est vraiment super cool, je trouve, avec le hockey, c'est que j'avais laissé un peu de côté le hockey pendant mes études. Et en fait, lors d'un Erasmus au Portugal, je me suis dit, bon, je vais quand même mettre de côté. C'est bien cool de boire des coups avec les autres Erasmus, mais au bout d'un moment, j'ai envie de retirer vraiment quelque chose de ce voyage-là. Et vu que le hockey, c'est un tout petit monde, tout le monde se connaît, même entre les pays. De fil en aiguille, en contactant 2-3 gars en France, j'ai réussi à avoir le contact d'une personne qui jouait au hockey à Lisbonne et qui avait un club de hockey. Donc du coup, en fait, la suite de mon Erasmus, ça m'a vraiment remis le pied à l'étrier avec le hockey. Et en fait, c'est là où j'ai le plus appris le portugais, le plus échangé avec des joueurs avec lesquels j'avais la même passion, en fait, d'échanger ces moments-là où avec des gens d'un autre pays, tu arrives à discuter de quelque chose que tu aimes et qui joue d'une certaine manière, etc. etc. Et c'est vraiment des super moments et ça reste des très bons amis, parce que pour le coup... dans mon club du Puy, on a des joueurs du coup de ce club lisboète qui viennent jouer pour le Puy dans la Ligue française.
Suite à ton Erasmus.
C'est ça, ouais.
Ah, c'est dingue.
Donc c'est des gens que j'aurais jamais croisé autrement et le fait juste de partager cette passion là, ça nous réunit quoi.
J'aurais plutôt pensé que t'allais parler de ton arrivée à Moiran.
Et ouais, non ça. Encore que je la digère, c'est arrivé là.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Non, il ne s'est pas passé grand-chose. J'étais très, très bien accueilli. Enfin, étant donné que c'est un sport ultra confidentiel, en fait, tout le monde se connaît et tout le monde rapidement est très bien accueilli, que ce soit dans n'importe quel club de France, qu'on commence le hockey ou que ça fasse très longtemps qu'on y joue. Je connais personne qui ait eu vraiment une mauvaise expérience avec ça. Donc... c'est pas du tout un souci.
Mmh. Et est-ce que vous avez des manières de jouer un peu spécifiques selon chacun, des points forts ou faibles Qu'est-ce que vous diriez de vous entre vous
Ouais, c'est compliqué.
Tu veux qu'on te décrive et que tu...
Non. je sais pas, bah, Jules, du coup, pour ceux qui...
Il est mauvais. Non.
Pour ceux qui le voient pas, c'est pas le plus costaud. Donc je dirais qu'il a plus un jeu d'évitement, de... Je saurais pas comment trop le définir, mais on va dire que c'est pas celui qui va aller à l'impact, c'est plus celui qui va tenter un petit geste ou d'essayer de palmer avec ses toutes petites palmes. Voilà.
C'est une anguille.
Une petite anguille, ouais, exactement. Voilà.
Non, je peux définir le jeu de Lucas. Ouais, Lucas, c'est un jeu comme sa personne. En fait, c'est marrant parce qu'au final, on retrouve la personnalité des gens dans leur jeu, qui est un petit peu imprévisible, on va dire, qui est en fonction de son état d'humeur, peut-être très 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 bon, comme
très 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 mauvais.
Non, pas mauvais, plus imprévisible dans ses actions. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, lors de ce fameux match en 3, on sent les faiblesses psychologiques et mentales de chacun. Parce que quand on est mené 2-0 au match en 3 et qu'on sait que lorsqu'on s'en reprend un, c'est la fin de l'entraînement, il y en a certains que ça va vraiment booster. Non, c'est impossible qu'on perde, etc. Et je pense qu'on a ça en commun avec Lucas, c'est que nous, au moins, on sait qu'on va rentrer tôt chez nous et que l'entraînement va éviter de terminer si on a l'équipe qui perd.
Ça veut dire quoi, ça ?
On n'a pas de mental, en fait.
Alors moi, je ne suis pas forcément d'accord. Je donne tout dans le match en 3. Et oui, il arrive que je perde. Mais c'est déjà rare. Donc voilà. Si je devais juger ou parler du type de jeu de Maxime, je dirais que c'est une brute. Il impose sous l'eau, il est un peu partout, il prend et donc il joue plutôt à l'arrière et quand il prend son palais, Ça se voit tout de suite, ça se ressent au niveau de ses apnées et tout. Donc,
ça veut dire quoi, prendre son palais?
Ça veut dire qu'il va récupérer le palais. Donc ça va être le protagoniste dans le jeu. Et ça va tout de suite se sentir. Et en général, quand on est contre lui, c'est assez difficile. Et physiquement, il impose, techniquement aussi. Donc oui, c'est plutôt il a plutôt un jeu polyvalent, je dirais, où il apporte un peu de tout dans tous les secteurs de jeu.
Petite touche de créativité parfois même qui.
Voilà. Mais quand il arrive au match en 3, c'est plus le même homme. Et là, à chaque fois, il perd.
Oui, il dégoupille.
Non, jamais.
Ça veut dire quoi, découpiller?
C'est qu'il perd un petit peu ses moyens, quoi. Non, pas vrai, c'est pas vrai. Ouais.
Et donc, vous aviez un petit message à faire passer, il me semble, pour les personnes qui nous écoutent.
Exactement. Si jamais les auditeurs, pour les auditeurs, le hockey, ça vous intrigue, parce que c'est un peu ce qui nous a amené vers ce sport. Nous, c'est qu'on était un peu curieux de dire, oula, c'est quoi ce truc chelou que les gens font au fond de la piscine. Il n'y a pas besoin d'être forcément aquatique ou bon nageur, hein, du tout. Il y a deux clubs sur le bassin grenoblois, un qui est à Moiran et un qui est à Grenoble. Et donc, du coup, le contact, le nom du club de Grenoble, où sur le site web, il y a toutes les informations ou les contacts pour venir tester. Donc, il y a le prêt du matériel, tout ça, c'est complètement. Enfin, vous n'avez rien besoin d'amener pour tester, et c'est en testant qu'on a. Donc, le nom du club, c'est Okeanos. O-K-E-A-N-O-S. Donc, si vous, sur Google, vous tapez Okeanos Grenoble ou Okeanos Hockey Subaquatique, etc., vous tomberez rapidement sur le site du club où toutes les informations seront pour le contact. Et donc, comme je disais, vu que c'est quelque chose de partagé avec le club de Moiran, ils seront vous rediriger vers le bon club.
Voilà. Et le club de Moiran, du coup, le nom du club officiel, on va dire, c'est le CASM, donc C-A-S-M. Le club d'activité subaquatique de Moiran.
Et n'hésitez pas à venir essayer, parce qu'en vidéo, on ne se rend pas forcément compte. Et je connais peu de personnes qui ont essayé et qui n'ont pas aimé. Donc, voilà.
C'est ouvert adultes, enfants, tout le monde?
Y a des sections jeunes dans ces clubs-là. Donc ouais. Adultes, enfants.
Il y a des créneaux pour tous les âges.
Voilà.
Faut quand même juste avoir plus de 10 ans, je pense.
Ouais, dans ces eaux-là.
10-11 ans, ouais.
Et est-ce que pour finir, vous aimeriez nous partager un peu c'est quoi vos ambitions dans le hockey subaquatique ou les défis à venir
Vas-y, Lucas.
Alors moi, de mon côté, maintenant, c'est vraiment uniquement une recherche de plaisir. Je trouve le hockey subaquatique très ludique et j'ai pas d'ambition de résultat, mais plutôt de continuer ce jeu que j'adore et de me faire plaisir, d'aller à des compétitions intéressantes et voilà.
Pour ma part, c'est l'ambition elle est à très court terme, parce que du coup c'est le championnat de France qui arrive le week-end prochain. L'objectif, c'est du coup l'idéal, ce serait d'être champion de France avec toute l'équipe, avec tous les copains, tout en prenant du plaisir bien sûr à jouer tous ensemble.
Et bon, un objectif, on va à la même compète avec Maxime. Nous, on est du coup un cran inférieur, et ça serait de, si on arrivait à faire un top 10 avec notre équipe, donc pareil, où il y a pas mal, un mix entre des gens plutôt expérimentés, pour pas dire plutôt vieux, enfin pas vieux, mais qui ont la trentaine bien tassée, et des très jeunes. Donc, réussir à mener cette équipe-là vers un top 10, ça serait vraiment top.
Vous êtes aussi en D1?
On est aussi en D1, oui.
Eh ben, merci à vous trois d'être venus parler à la radio de ce super sport. J'espère que des personnes qui nous écoutent seront intéressées pour venir découvrir.
On espère.
Ben, merci à toi.
Oui, merci
et
à
puis,
toi.
Bonne soirée à tout le monde.
Bonne soirée.
Bonne soirée. Bonne soirée.
Et c'était quoi? L'apérophonie. Ouais, mais c'était quoi? L'apérophonie. C'est quoi? L'apérophonie!
Quoi?
Sur Campus Grenoble!
Sur quoi?
Sur le 90.8!
Ah, sur Campus Grenoble 90.8!
Oui!